Chapitre 2. Une relation. Il était 4 heures du matin quand Melmont rentra. Camilla courut au-devant de lui à la porte de la rue. Le silence et l'air triste du jeune homme annonçaient assez son peu de succès. Profondément désespérée, elle supplia Melmont de faire savoir aussitôt à Essrington cette horrible aventure. Il alla lui-même chercher un homme et un cheval, tandis qu'elle écrivait en caractère presque illisible le billet suivant. « Oh, mon père, notre Eugénia a disparu. On l'a perdue hier au sortir de l'opéra. Monsieur Bellamy la conduisait au carrosse de Mistress Burlington, mais on n'a vu depuis ni l'un ni l'autre. Que faut-il faire ?» Melmont écrivit l'adresse qu'elle n'avait pas la force de tracer et Miss Margland envoya par la poste au baronnet une lettre où elle tâchait de justifier la conduite qu'elle avait tenue dans cette occasion. Indiana s'était mise au lit depuis longtemps. Elle était, dit-elle, très fâchée, très affligée, mais comme elle ne pouvait qu'y faire, autant valait qu'elle se reposât. Pour Mistress Burlington, quand même elle aurait pu être insensible au désespoir de Camilla, sa frayeur relativement à Eugénia et sa surprise à l'égard de Bellamy suffisaient pour la tenir très éveillée. Il ne pouvait y avoir qu'une opinion sur cette désastreuse aventure. Que Bellamy avait enlevé Eugénia pour s'assurer sa fortune en l'épousant. Melmont courut encore dans tous les endroits de Londres où l'on fournit des chevaux et s'informa exactement de toutes les voitures qui avaient été louées ce jour-là. Il revint à 6 heures fort troublé et dit qu'il venait de découvrir qu'on avait fait passer Eugénia d'un fiacre dans une voiture attelée de 4 chevaux, louée dans Piccadilly pour 1 semaine. Il résolut de prendre la poste à Franc-Étrier et de suivre les traces du ravisseur dans l'espoir que si la voiture était retardée par quelque accident, il pourrait l'atteindre avant qu'elle arrivât à Greenwich Green, où sans doute Bellamy conduisait Eugénia. Et comme on ne pouvait pas la forcer à donner sa main, il était possible d'arriver à temps pour prévenir la persécution ou la perfidie. Camilla saisit avidement ce rayon d'espérance et fut prêt d'embrasser l'obligeant Melmont. Celui-ci chargea sa sœur de veiller soigneusement sur Indiana et monta aussitôt à cheval. Le zèle de ce jeune homme n'avait pas besoin d'être excité par Camilla. Sa reconnaissance et sa vénération pour Eugénia lui auraient fait sacrifier sa vie si elle avait pu lui être utile. Et malgré sa partialité pour Indiana, il faisait quelquefois, involontairement, la comparaison des qualités morales des deux cousines. Mistress Burlington trouvait l'action de Bellamy très condamnable. Mais elle ne pouvait s'empêcher de croire qu'Eugénia ne tarderait pas à l'excuser. Elle regrettait Bellamy et ne pouvait pas lui pardonner de l'avoir trompée. Camilla rapportait tous ses malheurs à la perte d'Edgar. « Son active prudence aurait, disait-elle, préservé de ce malheur ma chère Eugénia. » L'exprès d'Essrington rapporta un billet de Lavinia. Elle mandait à sa sœur que M. Tyrold, au désespoir, allait prendre la poste pour l'Écosse. L'absence de Melmont dura près de 8 jours. Et ces 8 jours, Camilla les avait passés dans la plus cruelle incertitude. Sans cesse attentive au moindre bruit, elle entendit enfin la voix de Melmont et, courant au-devant de lui, elle le trouva au pied d'Indiana, à qui il tâchait d'exprimer par ses plaintes ce qu'il avait souffert d'être si longtemps éloigné d'elle. Mais son air et son ton de voix n'annonçaient point un heureux succès à son voyage. Camilla lut dans ses yeux et lui dit en tombant sur un siège « Vous ne l'avez donc point retrouvée ?»« Je viens de la quitter à l'instant. » répondit-il du ton le plus lugubre. « Oh, vous l'avez vu ? Vous avez vu ma chère Eugénia ? Ah, monsieur Melmont, pourquoi l'avez-vous quittée ?» Après quelques instants de silence, il pria Camilla de se calmer et parut infiniment touché de l'inquiétude d'Indiana, qui ne cessait de l'interrompre en s'écriant « Et où est-elle ? Et pourquoi n'est-elle pas revenue ? Et qui est-ce qui l'a enlevée ?» Il attribuait toutes ses exclamations à l'émotion de l'amitié la plus tendre et la conjurait, les larmes aux yeux, de modérer l'excès de sa sensibilité. « Et mon père, mon pauvre père !» s'écria Camilla, baignée de larmes. « Vous n'avez pas vu mon père ?»« Je vous demande pardon, je viens aussi de le quitter. »« Est-il avec Eugénia ?»« Oui, je les ai laissés ensemble. » Camilla passa tout d'un coup du désespoir à la joie. Sa sœur, rendue à son père, ne lui laissa que l'idée du bonheur. Mais Melmont fut plus affecté de sa joie que de ses alarmes. Il ne pouvait pas lui laisser concevoir des espérances qui rendraient la connaissance de la vérité plus amère. Il supplia sa sœur de l'aider à soutenir Indiana, et il leur apprit qu'Eugénia était mariée avec Bellamy avant qu'il eût pu les atteindre. Camilla n'était point préparée à un choc aussi terrible. Elle conçut qu'on avait usé de violence. Son sang se glaça dans ses veines et elle tomba sur le plancher sans connaissance. Lorsqu'on l'eut rappelée à la vie, on la conduisit à sa chambre. Tout espoir étant irrévocablement perdu, les détails lui parurent inutiles, elle ne fit plus de questions. Mistress Burlington, assise auprès de son lit, souffrait de la voir si profondément affligée. Mais elle regardait Eugénia comme la plus heureuse des femmes, quoique la conduite de Bellamy excitât chez elle un mélange de surprise et d'indignation. La sorte d'insensibilité que la douleur avait produite dans l'âme de Camilla ne fut pas de longue durée. Elle désira être instruite et Mistress Burlington lui raconta ce qu'elle avait appris de son frère. Malgré toute la diligence qu'il avait faite, il n'était point parvenu à atteindre la voiture. Elle ne s'était arrêtée qu'une seule fois dans un hameau. À la dernière poste, avant d'arriver à Gretna Green, il la vit revenir sur ses pas. Il lui fut aisé de conclure que le mariage était fait et Eugénia liée irrévocablement. Les jalousies de la chaise étaient levées et Bellamy regardait d'un air tranquille. Eugénia, assise dans le fond de la chaise, couvrait ses yeux de son mouchoir. Melmont arrêta la voiture et dit à Bellamy qu'il voulait parler à sa compagne. « Cette compagne, monsieur, répondit fièrement Bellamy, est ma femme. Vous pouvez lui parler en ma présence. » Eugénia découvrit ses yeux et les leva sur Melmont. Ils étaient rouges et bouffis à force de verser des larmes. Tout en elle offrait l'image de la douleur. Melmont reprit vivement « Je viens ici par l'autorité de ses parents et je la réclame en leur nom. » « Nous allons nous-mêmes trouver ses parents, » répondit Bellamy, « et nous n'avons pas besoin de leur envoyer des messages. » Il ordonna impérieusement au postillon d'avancer. Eugénia lui dit à peine assez haut pour être entendue « Adieu, monsieur Melmont, adieu !» Melmont aurait compté pour peu de choses la fatigue et le danger s'il avait pu s'assurer plus positivement des intentions d'Eugénia et de sa situation réelle. Mais comme elle n'entreprenait ni de résister, ni de démentir ce qui avait été dit, il supposa que Bellamy ne lui en avait point imposé. S'ils étaient mariés, la chose était sans remède. Et s'ils allaient réellement à Clèves ou à Etherington, c'était tout ce qu'ils pouvaient exiger. Il résolut toutefois de les suivre et, dans le cas où ils quitteraient la route, de les faire arrêter jusqu'à ce que la vérité lui fût parfaitement connue. Dans la seconde journée, au moment où Bellamy donnait la main à Eugénia pour descendre dans l'auberge où il se proposait de dîner, Melmont, qui entrait aussi dans cette auberge, aperçut M. Tyrold sortant précipitamment d'une chambre basse, mais si défait, si faible, qu'il pouvait à peine avancer. Eugénia s'avançait, les yeux baissés, sans apercevoir son père, lorsqu'il la serra dans ses bras en versant un torrent de larmes et sans pouvoir articuler un mot. Elle le reconnut et tomba sans connaissance. Bellamy ne le connaissait pas, mais il jugea qui il pouvait être et sa figure vénérable sembla lui imposer. Il s'empara néanmoins d'Eugénia et allait la porter lui-même dans une chambre de l'auberge lorsque M. Tyrold, ranimé par l'indignation, lui demanda par quelle autorité il se saisissait de sa fille. « Par l'autorité, lui répondit-il, d'un mari sur sa femme. » M. Tyrold ne répliqua point. Il prit le bras de Melmont, quoique sans le reconnaître, et Bellamy transporta Eugénia dans la première chambre vacante où il fut suivi par les maîtres de l'auberge. Melmont, pénétré de la situation affreuse de M. Tyrold, tâcha de se faire reconnaître de lui. Mais M. Tyrold ne l'entendait pas et semblait ne voir personne. Assis sur un coffre qui se trouvait par hasard dans le passage où il avait rencontré sa fille, il dit à haute voix « Cet affreux événement est sans doute bien capable de nous plonger tous les deux dans le désespoir. » Il joignit ses mains, leva les yeux au ciel et prononça à demi-voix une prière fervente, après laquelle, reprenant du courage et un peu de force, il s'avança vers la chambre où on avait porté Eugénia. Melmont essaya encore d'attirer son attention. Il reconnut sa voix, se tourna de son côté et lui tendit une main glacée. La porte était fermée en dedans, et la maîtresse de la maison, qui en sortait, leur dit que la dame indisposée venait de reprendre connaissance. M. Tyrold, assiégé de mille pensées déchirantes, ne put prendre sur lui de solliciter lui-même la permission de parler à sa fille. Il pria Melmont d'élever la voix et de réclamer pour lui la liberté d'entretenir quelques instants Eugénia sans témoin. Bellamy ouvrait la porte avec l'air de la honte et de l'inquiétude qu'il tâchait de déguiser sous les dehors d'une tranquillité apparente. Lorsque Melmont eut exposé la demande de M. Tyrold, Eugénia s'écria en se levant de son siège « Oh, mon père ! Oui, oui, je veux voir mon père ! Si ma pauvre vie pouvait s'exhaler sur son sein !» un moment !» dit M. Bellamy en faisant signe à Melmont de se retirer. « Dites à M. Tyrold qu'on le recevra tout à l'heure. » Melmont fit quelques pas en avant et entendit Bellamy dire en refermant la porte « Eugénia, ma vie est entre vos mains. Est-ce donc ainsi que vous répondez à mon amour et à ma constance ?» M. Tyrold fut convaincu que Bellamy redoutait cette entrevue et sa crainte ne pouvait avoir qu'un motif. Il résolut de parler sans délai à sa fille et fit déclarer par Melmont que si Bellamy ne lui laissait pas immédiatement la liberté de rester seul avec sa fille, il ferait en sorte de l'obtenir avec le secours de la justice. Bellamy sortit et fit une profonde révérence à M. Tyrold qui entra sans regarder et resta une demi-heure enfermé avec Eugénia. Bellamy, trouvant cette entrevue trop longue, l'interrompit en rentrant dans la chambre dont il ne sortit plus. M. Tyrold, tout en larmes, vint rejoindre Melmont, le remercia des peines qu'il avait prises et lui dit qu'il n'y avait plus de remède. « Retournez, mon cher Melmont, ajouta-t-il, à vos propres affaires. Je n'ai pas le courage de vous raconter les détails de cet affreux événement. Dites à Camilla que sa sœur revient avec moi et que je lui écrirai en arrivant à Essrington. » Camilla crut en ce moment n'avoir jamais connu le malheur. Tout ce qu'elle avait éprouvé jusque-là ne lui paraissait rien en comparaison de ce qu'elle venait d'entendre. Mais la violence étant contraire aux lois, elle ne concevait pas comment le mariage de sa sœur pourrait être légal. La lettre que M. Tyrold lui avait promise arriva, et elle y trouva le récit détaillé de cette triste aventure. Eugénia, que Bellamy avait écartée de Miss Margland dans la foule, fut obligée d'accepter ses services qu'elle avait refusés jusqu'alors. Il lui dit que le cocher de Mrs. Burlington avait reçu l'ordre de l'attendre dans Pall Mall, où ses compagnes se faisaient porter dans des chaises pour éviter le danger des carrosses. Elle demanda une chaise, mais il la pressa de monter dans un fiacre qui se trouvait à portée, en lui observant que ce moyen serait plus expéditif. Il dit au cocher d'aller à Pall Mall et s'assit vis-à-vis d'elle. La conduite décente et réservée de Bellamy ne permit point à Eugénia de concevoir le moindre soupçon de sa perfidie. Elle commençait cependant à s'étonner qu'allant si vite, il fallut tant de temps pour arriver à Pall Mall, lorsqu'elle aperçut une barrière et le cocher s'arrêta. Subitement éclairée sur sa situation, elle résolut d'appeler au secours. Mais Bellamy empêcha qu'on ne pût l'entendre et Eugénia refusa de raconter la suite de cette scène. Cependant, ne pouvant se dispenser de répondre aux questions directes de son père, elle avoua qu'on avait, dès ce moment, employé la force pour l'empêcher d'appeler à son aide et pour la transporter dans une chaise. C'en était assez pour fonder l'accusation de rapt et la tirer légalement des mains de Bellamy. Mais elle s'y refusa. « Non, mon père, lui dit-elle, le sort en est jeté. Je suis à lui, j'en ai fait le vœu et j'y serai fidèle. » Elle raconta ensuite succinctement que, quoiqu'il employât la force pour l'empêcher d'appeler du secours dans les endroits où il craignait qu'elle n'en trouvât, partout ailleurs, il n'avait recours qu'aux prières et aux protestations de l'amour le plus tendre. Constamment prosterné à ses genoux, il a supplié de lui pardonner une violence où il avait été entraîné par une passion insurmontable. Vers la fin du voyage, il lui déclara que sa vie était entre ses mains, mais qu'il lui était indifférent de périr victime de la douleur de vivre sans elle ou de la vengeance qu'elle prendrait du dernier effort de son désespoir. Elle l'assura que sa vie était en sûreté et qu'elle lui pardonnerait tout s'il consentait à la rendre à sa famille. Saisissant alors brusquement un pistolet, il lui dit « Oh, trop aimable objet de mon constant amour, ou accordez-moi votre main, ou voyez-moi expirer à vos pieds. » Il ajouta, avec un serment dont elle fut effrayée, qu'il ne survivrait pas une seconde à l'instant qui la séparerait de lui. Elle le supplia de se calmer. Mais ce qu'elle lui dit ne servit qu'à enflammer sa violence. Il voulait sa main ou la mort. Enfin, quoique tremblante, elle prononça nettement son refus. Levant alors son pistolet, « Pardonnez donc, lui dit-il, à mon indomptable amour, ô inhumaine Eugénia, et versez une larme sur le corps qui tombera sans vie à vos pieds. » Il l'approchait de son front lorsque, saisie d'horreur, elle lui retint le bras en s'écriant « Oh Dieu, arrêtez, je consens à tout !» Ce fut en vain qu'elle voulut se rétracter. Cette scène fut suivie d'autres semblables jusqu'au moment où elle s'engagea sur tout ce qu'il y a de plus sacré à lui donner sa main pour prévenir un suicide. Il trouva un ecclésiastique qui les maria en descendant de la chaise. Effrayée et plus morte que vive, elle gardait un profond silence. Mais elle souffrit qu'il lui passât la bague au doigt et elle crut sortir d'un songe lorsqu'elle l'entendit la nommer sa femme. Il lui fit les plus tendres protestations de sa reconnaissance et d'un amour éternel. Mais dès que la cérémonie fut terminée, elle s'abandonna sans réserve à sa douleur et ne cessa plus de verser des larmes. La connaissance de ces détails fit horreur à M. Tyrold. Indigné de la violence que son ravisseur avait employée et du criminel abus qu'il avait fait de son ingénuité crédule, il insistait à le poursuivre en justice, à obtenir la séparation et le châtiment de ce misérable. Mais les protestations qu'il avait exigées d'Eugénia depuis la cérémonie en imposaient tellement à la conscience de cette timide victime qu'aucun raisonnement ne put la décider à violer ce qu'elle regardait comme un devoir. Elle avouait qu'elle ne pouvait pas être heureuse dans une union formée par des moyens si détestables, mais elle suppliait en même temps son père de ne pas la rendre mille fois plus malheureuse en lui faisant commettre une action qui devenait à ses yeux un véritable parjure. « Il faut, ajoutait M. Tyrold, supporter patiemment ce qu'il serait inutile de combattre. Tout est conduit par la Providence, les calamités sont liées à d'autres événements, et il ne faut pas croire qu'elles ne produisent point de bien parce que nous ne l'apercevons pas. Je me résigne donc à subir humblement cette dure épreuve, la plus cruelle qu'ait encore affligé mon cœur. Hélas, de tous les maux qui ont assiégé l'enfance de votre infortunée sœur, aucun ne lui a été aussi funeste que la riche fortune dont elle a été douée par son oncle. Nous nous affligions alors, ma chère Camilla, de la perte que vous faisiez, et peut-être êtes-vous redevable à cette circonstance de n'avoir pas été victime de la perfidie. » Une lettre de Lavinia contenait quelques autres détails. Le père, voyant la malheureuse victime déterminée à subir son sort, se proposait de cacher à son frère ce qu'il y avait de plus odieux dans la conduite de Bellamy, et Eugénia tâchait de reprendre son air de tranquillité ordinaire pour pouvoir se présenter devant lui sans troubler la sienne. Bellamy parlait sans cesse de la violence de son amour, mais il ne trompait que la crédule Eugénia. Elle seule ne s'apercevait point qu'il jouait la comédie. Eugénia y avait ajouté un post-scriptum. « Ah, ma chère Camilla, que sont devenus les plaisirs que nous devions partager ensemble? Mais hélas, ne parlons pas de moi. Ne vous en occupez pas, ma tendre sœur, je vous en conjure. Ce que je vous ai promis sera exécuté dès que je pourrai aller à Clèves. Je remettrai le tout à Lavinia. Y a-t-il encore quelque chose que je puisse faire? Dites-le-moi, ma chère Camilla, et soyez sûre de la satisfaction dont vous ferez jouir votre Eugénia. » Camilla, désespérée du triste sort de sa sœur chérie, passait son temps à relire ses lettres et à les arroser de ses larmes. Elle baisait la signature de la malheureuse Eugénia, victime de son ingénuité et des scrupules de sa conscience.